Flamme Parpin, numéro 2. Rencontre avec Olga Lopez à la Bibliothèque nationale de France à Paris, site François Mitterrand au Rez-de-Jardin. La rencontre a eu lieu le 31 mai 2013.
En fait, je voulais commencer par te questionner par les temps de pause ici. C'est quoi pour toi un temps de pause dans ton travail ? Qu'est-ce que ça signifie de faire une pause dans ton travail ?
Moi, je crois que je ne fais pas une pause. Dans le sens que si je viens à... moi, j'écris il y a quelques jours un article. Et moi, je l'ai fait une petite présentation. Et la présentation, c'est dire... moi, je n'ai choisi pas le sujet de tout. Le sujet de tout, mais choisi. Je suis l'excuse pour qu'il parle. Et donc, moi, c'est que quand je suis en train de faire une recherche, je suis pris pour cette chose. Et donc, même si je suis en train de parler avec toi, je suis très intéressée, il y a une partie de moi qui s'est pris. Et des fois, les personnes me reconnaissent, c'est-à-dire même sans me connaître, il y a le sentiment que je suis très occupée. Et moi, je dis, non, tu peux me parler, m'appeler quand tu veux. Et non, et les personnes pensent que j'ai quelque chose déjà. Donc, la pause, c'est un faux pause dans le sens que je suis toujours en train de penser en choses que j'ai envie toujours de produire et que je ne sais pas comment produire. Donc,
mais ça, c'est relatif. Cette pause qui n'est pas pause, elle est relative à des moments où tu es dans la pression de produire quelque chose ou tu crois que c'est quelque chose qui est dans ta manière d'être, en fait.
Je pense que c'est dans la manière d'être, la manière de vivre. C'est-à-dire, moi, je pense que... moi, j'essaie beaucoup de réfléchir de que... moi, je n'aime pas classifier les humains, mais je dis qu'il y a des personnes qui sont prises. C'est-à-dire, on peut les appeler désir, on peut les appeler de n'importe quelle manière, mais sont toujours avec ça. Et donc, on les porte dans tous les endroits qu'on allait. Et ça, donc, c'est dans ce sens que je le dis. C'est-à-dire, je peux boire avec mes amis, me balader, faire plein de trucs. Mais toujours, c'est là. Et si ce n'est pas parce que c'est aujourd'hui, l'immanence d'aujourd'hui, c'est de finir la thèse. Mais sinon, c'est l'article après. Sinon, c'est autre chose, c'est une conférence. Mais c'est toujours une chose. Il n'y a pas un espace vide. C'est ça le plus fort. Et moi, je l'ai appris depuis que j'ai commencé à travailler ce type de choses.
Et cette chose qui remplit le vide, c'est quoi? C'est une quête?
Moi, je pense que c'est d'une certaine manière le désir qui me fait vivre. C'est ça que je te disais. Moi, je viens de lire tout à l'heure un truc qui me fait penser pareil, que c'est Jean Kelevich et Clément Rosset disaient toujours il y avait une inattention de lui. C'est-à-dire, on pensait qu'il ne prenait soin des paroles qu'on ne disait, mais le problème, ce n'est pas ça. Il pouvait, après, le soir, répéter exactement ce que tu lui as dit, mais on sentait qu'il est toujours... ailleurs, même quand il faisait les entretiens, les interviews, il répondait toujours d'autres questions, ses propres questions. Donc c'est dans ce sens, c'est comme quelque chose que toujours est pris pour...
Donc tu es toujours en toi, toujours en soi, même dans,
je sais pas
même
si
dans le rapport à l'autre, c'est ça que tu veux dire? Il y a toujours cette question de soi... indépendamment du rapport à l'autre ou du rapport à autre chose, c'est ça?
Oui, c'est-à-dire, moi, je peux partager beaucoup avec les autres et j'ai beaucoup de soins sur le visage de l'autre, les gestes de l'autre, l'attitude d'être fâché ou d'être relaxé. Tout ce type de choses me prennent beaucoup. Mais ce que je voudrais dire, c'est que je n'ai pas jamais un moment dans lequel je n'ai dit « Ah, je n'ai quoi faire avec ma vie ». C'est-à-dire, toujours, j'avais un truc qui m'intéressait énormément et que tout un grand pourcentage de ma tête est en fonction de ça. Même si je suis dans n'importe quelle situation, tu vois.
Ouais.
Donc, c'est ça qu'on peut l'appeler, c'est pour ça que je te disais, on peut l'appeler désir, on peut l'appeler quoi, je ne sais pas comment le dire, tu vois. Moi, je ne le dis pas comme une question de fierté, pas du tout. Des fois, on souffre beaucoup avec ça. Des fois, c'est une chose qui même...
Pourquoi? Comment tu imagines ta vie sans ça? Est-ce que tu l'imagines?
Moi, je l'imagine, j'essaie de l'imaginer, je l'imagine très ennuyante. Mais je l'imagine aussi...
L'ennui de quel ordre?
L'ennui de résoudre juste les gestes quotidiens sans rien de plus. C'est dans ce sens. Et moi, je pense que c'est ma façon de regarder, que bien sûr qu'on peut être très heureux de vivre juste avec les gestes quotidiens. Mais c'est ma façon de voir la vie qui la construit de certaines manières qui empêche de voir l'autre. Tu vois? Donc, c'est comme ça. Donc, pour revenir à la pause, c'était un peu comme ça, ce sentiment d'avoir toujours quelque chose à faire.
Et le chocolat dans cette histoire de la pause, c'est quoi?
Non, le chocolat, c'est éternel. Le chocolat, c'est toujours après. Moi, je suis, comme on a parlé tout à l'heure, ce n'est pas... Je suis joyeuse.
Joyeuse.
Je suis joyeuse. Et le chocolat, c'est une partie très importante de ça. De les manger le soir, de les manger avec le thé, de les manger avec la pause.
Et tu veux nous parler de quel chocolat tu es plutôt mangeuse? Parce qu'on a eu beaucoup ce débat, on s'est un peu, nous deux, on s'est un peu, comment dire, découvert par le chocolat.
Tout à fait.
On a vu qu'on mangeait le même chocolat.
Ouais, la même marque. Ouais. La même marque et de chocolat.
Ouais, la même marque et le même, comment dire, modèle, enfin la même.
Oui, le même pourcentage de chocolat. Les 85.
Ouais.
Ce n'est pas 84, n'importe quel chiffre.
Ouais. Et tu continues toujours à manger ce chocolat?
Ah non, toujours.
Ouais.
C'est épuisé.
Ouais, c'est vrai.
C'est pas si c'est ma faute.
Mais tu as demandé ou tu l'achetais s'il était épuisé ou pas?
Mais
parce qu'il s'épuise assez facilement, c'est vrai?
Ah oui, je ne sais pas.
Ouais, ouais. Moi, j'achetais plus qu'une tablette en fait.
Moi
j'achetais
aussi.
Deux, trois tablettes.
Moi aussi. Ouais, chaque fois que j'y allais, j'y achetais en avance.
Oui.
Et maintenant, il n'y a pas plus. Moi, je sais que je vais écrire à les distributeurs, à les producteurs, pour dire, bon, écoute, moi, je pourrais acheter en boîte ou quelque chose comme ça.
Oui, c'est vrai.
Et garder une quantité.
Ouais. Ils ne font pas de boîte. Hein.
Non. Tu as appelé?
Non. Ben, tu sais, j'ai essayé un autre modèle et c'est pas mal, il est moins cher en plus.
Lequel?
C'est celui-là, regarde. C'est,
c'est
Monoprix Gourmet, éclat de fèves, si croustillant sous la dent, chocolat noir.
Il y a
pas mal de cacao aussi. Il y a beaucoup moins que les 86 de l'autre.
Mm-hmm.
Il y a 72%.
Mm-hmm,
mais il est assez corsé. Il est assez amer aussi, comme l'autre.
Mm-hmm.
Et puis il y a les éclats de fèves qui leur donnent au chocolat.
Je vais essayer ça.
Je vais te montrer.
Tu vas me faire goûter?
Oui.
Merci beaucoup. Ah, tu sais qu'il y a une chose aussi qui m'intrigue, c'est dans les rencontres des humains, c'est pourquoi entre millions de personnes qu'on croise, on parle avec une personne. C'est-à-dire, entre nous, c'était l'excuse de le chocolat, mais c'est une fausse excuse. C'est-à-dire, ça, moi, je peux trouver autre personne.
C'est une clé.
Exact, c'est une clé, mais ce n'est pas une clé qui marche toujours.
Mm-hmm.
C'est-à-dire, je peux trouver autre personne qui a le même chocolat et je n'ai pas aucun intérêt.
D'accord.
Vois? Mais ça n'a aucune réponse. Et toujours, ça m'étonne. Qu'est-ce que fait que deux personnes se croisent, que deux personnes s'intéressent, que deux personnes se regardent?
Tu crois qu'il y a quelque chose d'immanent
non.
De, dans le rapport
Je vais dire un petit poème en espagnol.
Vas-y.
Un poète en espagnol disait « Por qué todo mundo pasa al lado tuyo, nadie te ve et yo no soy capaz de dejar de mirarte.
Mm-hmm. »
Sí? Ça me... Et je dis, oui, c'est vrai. C'est-à-dire, ça peut, c'est pas seulement dans les rapports amoureux, mais aussi dans les rapports d'amitié que... une personne se crance et on trouve qu'il y a quelque chose. Je ne parle pas de l'immanence, je ne sais pas. C'est-à-dire, ça, c'est toujours une question pour moi.
Ouais.
Qu'on est millions dans une ville et que toute personne se crance, le pire qu'ils restent ensemble.
Ouais. Mais oui. Moi, je me la pose pas fréquemment, cette question, mais c'est aussi une question un peu de cet ordre du mystère et de l'énigme, comme tu es en train de décrire avec ce poème. Moi, qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est pourquoi est-ce qu'on a... pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être aimé et pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être dans l'amour? Tu vois? Pourquoi est-ce que l'être humain se caractérise, l'être humain ou les animaux aussi, peut-être, je sais pas trop, se caractérise par ça. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être aimé? Pourquoi est-ce qu'on est dans cette quête, parfois, ou très souvent, dans la vie envers l'autre, d'avoir un retour aimant? Et pourquoi est-ce qu'on s'attache et on dépense énormément d'énergie et de temps à rechercher la personne aimée?
Oui, tu vois, tout à
pourquoi
fait.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça, en fait, que l'amour, quoi, tu vois?
Non, ça m'inquiète aussi énormément. Ouais. Aussi.
Est-ce que tu crois que à des niveaux différents, les relations de tous les jours et l'attirance ou la non-attirance que tu as envers les gens est baignée dans cette quête amoureuse de l'amour?
Moi, je crois que oui.
Ouais.
C'est-à-dire, c'est baigné sur les personnes que je crois, c'est que ça m'attire quelque chose. Il y a des personnes que je tout de suite refuse. Donc,
ouais.
Il y a tous les contraires. Donc, il y a quelque chose, bien sûr, que c'est une question de l'amour. Avec les objets aussi, avec les lieux, les endroits, avec plein de choses.
L'amour ou le désir, alors?
Mais si c'est deux personnes, par exemple, qu'il n'y a pas un rapport physique, qu'est-ce comment on peut l'appeler?
Il y a un rapport physique dans le sens où ta présence m'est plaisante, tu vois? Tu ne m'es pas déplaisante physiquement, indépendamment du fait qu'il y ait un rapport tactile.
D'accord.
Est-ce que ça, c'est une explication valable pour toi ou, est-ce que tu crois que ça fait partie...
Je crois que oui. L'amitié, ouais. c'est un rapport avec l'amour, avec quelqu'un que j'ai envie de voir, même si je n'ai pas un contact corporel direct. Ouais. Oui, je suis d'accord. Mais aussi, moi, j'ai pensé des fois avec ta question de pourquoi on a besoin d'être aimé, pourquoi on a besoin de chercher une femme ou un homme qu'on a envie de garder comme quelqu'un qu'on aime. Ça me met beaucoup de questions. Ça, c'est l'autre partie qui me prend l'autre côté de la tête.
Le côté gauche, le côté droit.
Je sais pas lequel. Mais en tout cas, moi je pense, des fois, si je suis aussi complet avec moi, c'est-à-dire si je ne suis pas anxieuse, si je ne suis pas angoissée, si je voudrais l'amour. C'est-à-dire si l'amour, ce n'est pas un geste égoïste de chercher quelque chose qui me manque à moi. Tu vois?
Donc ce n'est pas un truc qui est
c'est le contraire.
Foncièrement dans le rapport à l'autre.
Exact, si le rapport
en fait,
à l'autre.
C'est toi dans l'autre, que, c'est ça?
Je vais essayer de voir si on se comprend. C'est-à-dire, pour moi, l'amour, ce n'est pas une question de besoin. Moi, je voudrais aimer quelqu'un parce que, c'est-à-dire, si je ne suis pas ni angoissée, si je ne suis pas dépressive, si je ne suis pas triste, ce n'est pas quelqu'un qui va me remplir toutes mes incapacités, toutes mes faiblesses. La possibilité pour moi de l'amour, c'est quelqu'un qui se lie avec moi et bien sûr me rendre plus fort. Je le rendrai plus fort, mais comme une troisième possibilité. Mais quand je suis en train de chercher quelqu'un juste parce que je suis anxieuse, parce que je suis triste, moi je trouve que c'est le geste plus égoïste.
Mm-hmm.
Tu vois?
Oui.
C'est dans cette mesure que je dis, bon, qu'est-ce que c'est l'amour? C'est-à-dire, l'amour, c'est dans le moment que je suis aussi bien avec moi que je peux être avec quelqu'un. Mm-hmm. À le contraire.
Et c'est l'amour qui t'a fait aller aussi vers Clément Rosset?
Non, Verclemer Rosé, c'était autre chose, tu sais. Mm. C'est super fort.
Comment est-ce que tu en es venu à Clément Rosé?
Oui.
Il t'occupe, ça fait 4-5 ans déjà. Ça fait 5 ans que tu vis avec lui, quoi.
Exact. Je ne les connais pas. Ouais. Mais bon, moi, j'ai écrit un article il y a quelques jours pour une revue. Pour la revue, j'espère qu'elle va être publiée, pour la revue Chimère. Et la femme qui dirige la revue, en tout cas qui m'a demandé l'article, elle me dit cette question, elle me dit, qu'est-ce qui t'a amené, qu'est-ce qui m'a amené un Colombien à lire Clément Rosé?
Cette question m'est passée par la tête, mais je me suis dit, quelle réponse je veux avoir, tu vois? Parce que j'imagine qu'on te l'a posé beaucoup de fois. Parce que, tu vois ce que je veux dire? C'est comme si... quelqu'un qui n'est pas forcément lié à ces questions-là, parce qu'elle n'est pas européenne, parce qu'elle n'est pas française, parce qu'elle est colombienne, et parce qu'elle est de l'Amérique du Sud, où forcément il y a une intuition, un différentiel de culture énorme, etc. Pardon, je t'ai coupé, moi je
non,
me suis perdu.
Problème.
Mais c'est. Oui, c'est. Je voulais te la poser. J'avais envie de te poser la question, mais en même temps, je pense qu'elle est inutile cette question. Parce que.
Tu crains?
Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses?
Moi je pense que ça m'a donné beaucoup de réflexions, non? Que pour moi ce n'est pas inutile. C'est-à-dire, il y a plusieurs réponses. Plusieurs. Moi j'ai essayé dans l'article que je te disais. Parce que moi, j'ai fait une écriture que je dirais la plus honnête que j'avais faite dans les dernières époques. C'est-à-dire sans me cacher dans les citations, d'une grande simple simplicité. Et ma simplicité, c'est dire pourquoi je m'approchais à le tragique. Parce que le point de départ, ce n'était pas Clément Rosé, c'était le tragique. Et pourquoi on est aussi toujours en face de la mort. Pour moi, c'était la question du tragique avec la mort.
C'est-à-dire ?
La mort.
J'ai compris. Non, mais c'est-à-dire.
C'est-à-dire dans le sens que. C'est pour ça que c'est une longue histoire et Clément Rosé arrive dans notre moment, mais arrive pour différents chemins. Mais c'est parce que moi, en Colombie, j'avais travaillé sur les faits divers et le rapport du peuple avec la mort. Peuple, entre guillemets, c'est-à-dire toutes les personnes qui lisent les journaux, les petits journaux, les journaux de...
La nécrologie
et tout à fait, mais les faits divers, que quelqu'un a tué, que son mari a tué sa femme, etc. Des choses très truculentes. Mais que finalement m'a donné la possibilité de penser énormément de choses parce qu'il y a toute une sensibilité qui n'est pas évidente et qu'il y a toute une esthétique de parler de la mort, de parler de la souffrance, de parler de la douleur qui n'existe pas dans aucune théoricienne et qui se fait avec la spontanéité de chaque geste, de chaque événement. Donc, j'ai lu énormément, j'ai écrit un livre en rapport à ça et quelques articles. Et donc, j'ai commencé dans ce moment-là à dire, les philosophes, de certaine manière, les théoriciens que je travaille, font une certaine ritualisation de la mort qui n'est pas ici. Que c'est différent, que c'est plus minus moléculaire, que c'est plus instantané. Et donc, moi, j'ai trouvé quelques fragments de Clément Rosé, par exemple, mais pas le livre complet, il disait, je crois que c'est dans le livre sur le réel, il disait, l'unique...
Tu peux parler plus fort. Hein.
Ouais. maintenant, j'ai dit. Il disait, attends, je me rappelle bien de la citation. Il disait que le problème de tragique, ce n'est pas un problème des grands philosophes. Ce n'est pas que
c'est qui disait ça, Clément Rosé.
Il disait ce n'est pas une question de réflexion de Nietzsche, de bataille. Non, c'est une réflexion qui traverse l'histoire de l'humanité. C'est une réflexion qui traverse l'histoire de l'humanité et c'est le peuple qui le comprend. Il le comprend avec l'expression très très simple de « c'est la vie ».
Mais c'est pas une façon aussi de botter en touche, de dire le problème il est tellement grand et que c'est pas la peine de s'y atteler, de le travailler, de le regarder en face, de prendre le taureau par les cornes.
Non, moi j'ai trouvé.
C'est un peu comme les grandes questions métaphysiques, je sais pas. Enfin, tu vois, c'est ça. Je sais pas. Je comprends ce que tu veux dire. Mm-hmm. Je pense que c'est une réponse intéressante. Mm-hmm. Mais j'ai l'impression que c'est pas suffisant de dire ça.
C'est-à-dire, moi je pense.
Je pense que c'est très intelligent de sa part de dire ça. C'est très habile. Mais je sais pas si c'est. Si ça répond en fait, si ça donne des pistes. Je sais pas.
Et c'est pour ça que lui, c'est un philosophe très paradoxal, parce que lui, il ne cherche pas des interprétations. C'est-à-dire, quand il dit cette expression, ou quand il parle de. Parce qu'après ça, il parle de la musique populaire, et montre comment la musique populaire, il a un sentiment tragique qui s'explique avec sa façon de c'est-à-dire, qu'est-ce que définit le tragique? La définition de tragique, c'est la mélange entre joie et souffrance.
Un mélange paradoxal, donc.
Exact, c'est paradoxal dans ce sens. C'est dans ce sens que Nietzsche l'a compris aussi, quand il utilise la figure de Dionysos, et comment la souffrance peut se convertir dans beauté. Donc, quand Clément Rosset dit « c'est la vie », moi j'ai dit il fait une constatation, il fait pas une échappe, il fait pas une interprétation, il fait juste une constatation, et la philosophie de lui dans la plupart des cas c'est constatation. Et donc il dit quand je trouve l'expression c'est la vie, ou quand je trouve la musique populaire, ce que je trouve c'est la mélange de souffrance et de joie, et dans cette mesure je trouve que ce n'est pas, et moi je trouve super intelligent et super fort, et ça, je ne trouve pas qu'une réflexion de cet ordre, que c'est partie de l'humain le plus profond. Moi je suis très colonisée pour Nietzsche, tu sais, comme je suis très colonisée pour Deleuze, je suis très colonisée pour un type de philosophie. Quand tu me dis métaphysique, je pense à une chose très claire, que oui, que c'est vrai que c'est une simple simplification de la pensée platonicienne, parce que Platon c'est très complexe, mais je pense à cette division occidentale entre l'être et l'étant, oui, entre la copie et l'original, que c'est parti, oui, l'artiste c'est un imitateur, etc., etc. Donc, moi, dans l'expression « c'est la vie », je trouve qu'il n'y a rien de métaphysique dans le sens qui, au contraire, dit « ça, c'est le monde ». Il n'y a rien de plus que ça. Ce n'est pas que je suis dehors, je suis partie de ce monde. Et quand je vois, par exemple, que arrive une chose très lamentable, je ne peux pas dire « ça, c'est le malheur ». Ça, c'est les humains qui ne savent pas agir. Et ça, c'est une question morale. Non, je peux dire juste, c'est la vie. Tu vois, c'est dans ce sens que c'est une phrase très simple, que ce n'est pas une question de Clément Rosset, et que ça gêne aussi, parce que pour beaucoup de philosophes, la philosophie doit théoriser plus. Il ne doit pas être juste dans la constatation.
C'est peut-être pour ça que je disais que ça ne me suffisait pas, peut-être.
Pour beaucoup de philosophes, ça n'intéresse pas. Donc, la question qui m'intéressait au départ, c'était ça. C'était qu'est-ce que c'est le tragique? Mais c'est ça que j'arrive à penser dans l'article. Mon point de départ, c'est que j'ai pensé le tragique dans un seul sens, dans le sens de la souffrance. Et avec Clément Rosset, bien sûr, Clément Rosset s'est toujours appuyé sur la pensée nietzschéenne. Pour moi, c'est le philosophe plus nietzschéen qu'il y a en France. Le tragique, il y a autre visage. Et l'autre visage, c'est l'approbation, c'est la joie. C'est ça qui me manquait dans ma première question. La première question, c'est pourquoi les hommes parlent de l'amour, pourquoi les hommes s'intéressent à l'amour, pourquoi la souffrance ne reste juste pas dans le silence, la souffrance se tourne à autre chose, mais pourquoi les hommes ne renforcent le tragique.
Alors, attends, laisse-moi comprendre. Tu t'es intéressé au tragique et tu as découvert la joie dans le tragique, ou le deuxième versant, le deuxième visage du tragique?
Je l'ai découvert avec Clément Rosset.
D'accord.
Avant, je ne les comprenais pas.
Est-ce qu'on peut faire le voyage inverse?
Dis-moi.
D'être dans la joie et de découvrir le malheur dans la joie. Est-ce que c'est valable aussi? Est-ce qu'une joie est forcément aussi... a forcément deux visages aussi.
Oui. Ça, c'est le principe d'une philosophie tragique. C'est-à-dire, la philosophie tragique dit on ne peut pas être toujours dans le bonheur. Et la possibilité de la joie, c'est comprendre ça. Qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent, mais qu'on ne laisse pas tomber. Et Clément Rosset disait dans ses premiers livres une chose qui m'a touché beaucoup aussi. Il disait les suicides, par exemple. Une personne qui se suicide, ce n'est pas quelqu'un qui n'aime pas la vie. C'est quelqu'un qui ne s'aime pas soi-même. Tu vois? Donc, soi-même le résulte aussi insupportable qu'elle ne survivre pas. Elle ne peut pas survivre. Elle ne peut pas se surmonter. Quand on comprend la philosophie tragique, on trouve un obstacle dans la vie, on dit je suis plus fort que ça. Et dans ce cas, je peux le surmonter. Et c'est dans ce cas-là que c'est la joie. Parce que c'est la possibilité de, malgré la souffrance, continuer à vivre. Donc, pour revenir, je te disais que j'ai arrivé par plusieurs chemins à Clément Rosset. Un des chemins, c'était la première question, pourquoi le tragique? Au fur et à mesure que je l'ai lu, j'ai appris que le tragique ne reste dans ce côté-là. Que ce n'est pas... Parce que sinon, on resterait dans des philosophies, dans le sens tragique, dans le sens de Tchekhov, dans le sens de même Cioran, c'est des espoirs de Cioran qu'on ne comprend pas, ou dans Unamuno, que c'est un écrivain espagnol, il reste dans le sens de tragique. Mais quand on commence, on lit le tragique à l'approbation, on parle vraiment d'une philosophie tragique, on produit avec ça. Donc ça c'est mieux. Et l'autre chemin, c'est que Clément Rosset, je le disais, peut parler au contraire plus à quelqu'un qui n'est pas français qu'à quelqu'un français.
D'accord.
Et oui, parce que sa façon comme il écrit la philosophie, comme je te disais, c'est la constatation, il y a quelque chose fragmentaire dans sa philosophie aussi.
Tu crois que ça manque, ça?
Non, pour moi, ça ne manque
pas. La philosophie, justement, de rester dans la... Dans ça,
Moi, je pense que la possibilité de la pensée, c'est de s'ouvrir à des alternatives. Pour moi, c'est une alternative. Il y a peut-être pour beaucoup que ce n'est pas très sérieux, tu vois, que ce n'est pas sérieux, que c'est quelque chose de très léger, très faible, etc. Et donc, il a plus cette façon d'écrire et d'agir. Il disait, ah oui, peut-être je ne traversais pas l'Atlantique, je n'étais pas lu parce qu'il était génération 68, comme Deleuze, comme Guattari, comme Derrida, etc. Et il n'était pas reconnu dans cette époque-là, mais il disait, dans un entretien, en tout cas, je suis lu d'une façon plus éparpillée dans le monde et pour des lecteurs oyeux. Donc, je l'ai senti aussi que avec lui, on perd la frontière de la philosophie. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de plus littéraire aussi.
D'accord.
Que c'est ça aussi qu'on rencontre avec Michel Serres. Et que ça n'aime pas la façon comme la philosophie s'est construite en France, ça dérange. Et donc avec lui, je trouve ce même sentiment. C'est-à-dire qu'il écrit plusieurs livres sur le réel, jamais donne une définition du réel. Non. Et donc, il disait, comment c'est qu'il disait? Le réel, c'est un ensemble de choses indéfinissables. Que tu te mettrais avec ce type de questions pour les personnes qui ont envie d'encadrer, de penser avec ça, c'est impossible.
Ouais. Tu étais à la recherche d'un philosophe comme Clément Rosset ? Quand tu l'as trouvé, tu t'es dit...
Moi, j'étais très contente de le rencontrer. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas philosophe, je suis historienne. Après, j'ai fait un master en esthétique. Donc, moi, je ne me considère pas très disciplinaire.
Mais là, tu fais une thèse en quoi ?
En philo.
En philo.
C'est-à-dire, c'est philo-esthétique, parce que le doctorat, c'est en esthétique. Mais moi, je ne me considère pas très disciplinaire, dans le sens que je traverse plusieurs choses. Je peux lire littérature que j'adore, ou je peux lire quelques philosophes. Ça, ça dépend de ma question, tu vois.
Ouais.
Donc, la première fois que j'ai lu Clément Rosin, ça qui m'a étonné, c'est la simplicité de son écriture. C'est impressionnant. C'est comme une lumière qui se met en face de toi. Donc ça m'a étonné. Je n'ai pas jamais lu quelqu'un avec cette simplicité. D'une certaine façon, cette honnêteté dans la manière comment il s'approche à l'autre. Et ça m'a... Après, bon, il y a beaucoup de petits chemins qu'on commence à faire avec une recherche. On finit pour la préciser sur un philosophe. Pour moi, la question, c'était sur le tragique. Après, je m'encadre sur Clément Rosset.
Tu as dit un peu au début que tu l'avais jamais vu, Clément Rosset.
Non.
Tu es curieuse de le voir ? Ou est-ce que tu as peur de cette rencontre ? Parce que parfois, les rencontres peuvent être tragiques aussi. Tu vois ?
Tout à fait.
Perdre cette lumière que tu as découverte.
Tout à fait. Moi, je ne sais pas. C'est-à-dire, au départ, je pensais que le livre, c'était suffi pour moi. J'ai dit, bon, pourquoi le rencontrer si j'ai le livre ? C'est comme une question essentialiste de trouver les personnages en chair et en os pour croire que comme un oracle qui te va dire plus. Donc ça m'a passé, pour plusieurs phases aussi. Après, j'ai lu ses archives, elle a donné ses archives à la VNF Richelieu, donc ça m'a donné plus de curiosité parce que j'ai lu toute sa correspondance. Je m'approchais comme un côté plus
intime.
Privé de sa vie.
Et que tu as découvert quoi ? Je suis assez curieux de ça, de cette correspondance. C'est quoi comme correspondance ?
C'est la correspondance de plusieurs années, de plusieurs moments de sa vie aussi, quand il était jeune, quand il était à l'école normale supérieure, quand il allait au Canada, parce qu'il avait une période au Canada. Et donc il avait la correspondance avec Yankelevich.
Qui était son caïman un peu.
Oui, il était
Althusser son... et que Yankelevich. Hein, si
non, mais Althusser, c'était plutôt. J'ai trouvé qu'il n'y a, moi, il n'y a pas correspondance avec l'Althusser. Parce que moi, j'ai trouvé au contraire qu'il s'éloignait beaucoup de Althusser, mais avec Yankelevich, il y a un grand rapport. Et le livre de philosophie de Schopenhauer, Philosophie de l'absurde, c'est dirigé pour Yankelevich. Mais ça, c'est rien à voir avec son travail, avec ce chose. C'est juste que ça m'a donné un sentiment d'envie de les. Moi, je pense que comme les entretiens qu'il a fait à France Culture, qu'est-ce qu'on peut faire si on le rencontre ? Essayer d'avoir de bonnes questions pour qu'il s'exprime. C'est ça que je voudrais, c'est ça que...
Mais en même temps, toi et moi, on les a écoutés.
Mm-hmm.
Et ce qui en sort, je pense, c'est vraiment de l'ordre de ce que tu as dit au début. C'est un peu la vie aussi, ses réponses, toutes les questions, enfin l'atmosphère de ces trois émissions hors champ, je pense que c'était l'émission sur France Culture.
Tout à fait.
Il en ressort une énergie un peu plate, quoi. Enfin, tu vois,
Pourquoi ?
Je sais pas, parce que on en discutait un peu tous les deux. Et je te disais que d'après sa voix, j'ai eu l'image de quelqu'un avec un corps un peu pâteau, un peu un peu gêné,
inconfortable dans
sa peau. Je pense, ouais, quelqu'un de grand, de bizarrement je l'imaginais pas propre. De quelqu'un qui vit tout seul. Bon, c'est peut-être parce que j'ai cette image de mon voisin du deuxième étage.
Tout à fait.
Qui me renvoie
un
ermite
images.
Un peu, tu vois, il sort très peu, ou alors
mais c'est aussi
à des heures où personne
dédié
ne sort.
À l'écriture, les personnes ouais. dédiées à l'écriture sont des personnes solitaires. C'est, pour moi, c'est presque obligatoire. Parce que sinon, tu ne peux pas.
Ouais. Mais c'est bizarre parce que moi, je n'ai pas... Alors lui, il le dit, je pense, à la toute fin de la troisième émission, il dit... Il conclut un peu en disant que oui, j'aime la vie, j'aime les chats, j'aime ceci, j'aime cela. Enfin, il aime manger, il aime écouter la
ouais,
musique, c'est un mélomane, tout ça. Et il n'a rien de tragique, en fait. Enfin, il n'a rien de ce qu'on... de ce que communément le tragique...
Mais parce que tu restes dans la définition.
Dans la première, oui, voilà.
Exactement, c'est une autre définition. C'est-à-dire, quelqu'un qui pense le tragique juste peut approuver la vie.
D'accord.
C'est ça le principe de lui. Et donc, mais lui, comme tout le monde connaît ici à Paris ou en France, il avait beaucoup de soucis de dépression, de plus de 10 ans de dépression. Il a écrit un livre qui s'appelle Route de nuit, dans lequel il racontait tous les cauchemars.
Et ouais. donc, il en raconte quelques-uns, c'est dans l'émission, c'est assez marrant. Ouais, ce cauchemar où il est dans une file d'attente pour être pendu.
Oui, qu'il ait reçu une lettre pour dire vous serez pendu dans tel lieu, vous voulez vous présenter.
Ouais. Mais en même temps, tu vois, c'est tragique, mais c'est vrai que c'est assez marrant. C'est,
exact.
C'est assez joyeux dans le comique, dans le tragique.
C'est-à-dire que ce que j'ai ressenti, c'est que ce n'est pas qu'il n'y a pas de souffrance, comme on disait au départ. Ce n'est pas que je veux être, ah oui, je suis un être le plus heureux du monde. Ça, c'est rien à voir. C'est reconnaître la souffrance de la vie et continuer avec. Parce que je ne peux pas choisir ce que je suis. Je ne peux pas choisir comment mon cerveau marche. Je ne peux pas choisir si je tombe dans une dépression. Tu vois? Et malgré ça, je peux persister dans la vie. Et c'est ça la force.
Malgré tout, je peux persister. En dépit de tout, je peux persister.
Exact. C'est ça pour moi. Ce n'est pas que je dis, ah oui, je suis le plus chanceux du monde. Je suis... Non, c'est parce que la vie porte ça aussi. Porte tous ces autres côtés qu'on ne peut pas échapper.